Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges au règne des cieux. Ave, ave, ave Maria. Notre-Dame de Lourdes,
priez-vous.
Sainte Bernadette,
priez-vous.
Bienheureux Pascal Vergès,
priez-vous.
Frères et sœurs, chers pèlerins, nous voici réunis cette année encore pour approfondir le message de Lourdes suivant les indications de la Dame, aller à la source. Lorsque le 11 février 1858, Bernadette se trouve sur la pointe de l'île du Chalet faisant face à la grotte. Elle vient chercher du bois pour sa famille. Nous sommes entre midi et deux, comme nous dirions communément. Bernadette a demandé à sa sœur Toinette, à son ami Balloun, qui l'accompagne, de l'aider à traverser le canal de sa vie, puisque la grotte de Lourdes est posée à cet endroit où le canal de sa vie rejoint le Gave. On est donc au milieu des eaux. Cependant, personne n'a voulu aider Bernadette parce que Bernadette, c'est une sœur aînée encombrante. On ne peut pas courir, elle est toujours essoufflée. On ne peut guère jouer longtemps, elle est essoufflée. Et c'est la grande sœur qui garde toujours un œil sur sa sœur Toinette et sur cet ami Balloun qui aime beaucoup bouger et faire parfois de mauvais coups. Bernadette se trouve donc seule face à la grotte, quand tout d'un coup surgit un grand coup de vent qui fait virevolter son lourd capulet de laine. Il en faut du vent, une belle bourrasque. Cependant, elle est intriguée parce qu'autour d'elle, ce fort coup de vent reçu n'a fait bouger aucun arbre. De telle sorte que Bernadette, ayant reçu ce coup de vent, lève la tête et fait face à la grotte de Massabielle. Là, que voit-elle? Elle voit tout d'abord un buisson qui bouge. Ce buisson bouge un peu comme si un oiseau était pris à l'intérieur. Et c'est au-dessus de ce buisson qui bouge qu'elle voit, tel le buisson ardent, poindre une lumière. Et c'est dans cette lumière qui peu à peu grandit que Bernadette voit un sourire. C'est la première chose que Bernadette voit à travers cette lumière, c'est un sourire. Et à partir de ce sourire, elle va finir par distinguer une petite demoiselle au sourire, dont elle nous dira qu'elle porte une robe blanche, qu'elle a autour de ses reins une ceinture bleue et qu'elle porte dans sa main un chapelet et que ce chapelet est de la couleur des roses qu'elle a sur ses pieds nus. Ce sont des roses d'or et le silence de Notre-Dame est d'or lui aussi. Elle fait signe à Bernadette à travers ce sourire. Un geste d'accueil, s'il en est, elle lui fait signe d'avancer, c'est-à-dire de traverser le canal de sa vie et d'entrer dans la terre sainte que devient la grotte, car Bernadette est comme un nouveau Moïse. Moïse est intrigué parce qu'il voit ce buisson qui brûle sans se consumer. Bernadette a vu un buisson qui brûle au-dessus duquel poind la lumière. Moïse entend la voix de Dieu lui dire « Ceci est une terre sacrée, déchausse-toi ». Bernadette vient d'enlever ses sabots pour espérer traverser ce canal de sa vie. Bernadette est invitée à entrer dans la terre sainte que devient maintenant par la présence de cette jeune demoiselle, la grotte de Massabielle. Cette grotte, certains se rappellent des enseignements des années précédentes, était jusqu'à l'époque des apparitions la tute aux cochons, une porcherie municipale à ciel ouvert, si vous préférez, avant les apparitions entre 120 et 250 porcs quittaient la ville de Lourdes chaque matin à la belle saison pour venir prendre les eaux aux rives de Massabielle. De telle sorte qu'il y avait une expression dans la ville de Lourdes lorsqu'un enfant mangeait mal ou se comportait comme un cochon. On disait toujours « il a dû faire son éducation à Massabielle ». Alors que depuis que la dame y est apparue, nous faisons nous aussi notre éducation spirituelle, surnaturelle, à Massabielle. Dans les Saintes Écritures, le porc, c'est l'animal interdit, le signe même de l'impureté, de telle sorte que lorsqu'on entend chez Saint Luc la parabole du fils prodigue, on voit en un temps de famine ce fils prodigue mourir de faim alors qu'il garde un troupeau de porcs. Et là où nous verrions à travers ce porc la charcuterie qui pourrait quand même bien faire en sorte que nous n'ayons plus faim, lui n'a même pas un regard pour les porcs. Lui, il est en train de loucher sur les glands que sont en train de manger les porcs, car il est absolument interdit de manger de cet animal signe d'impureté. Dans cette grotte de Massabielle, qui était donc la porcherie municipale, qui était donc un signe symbolique d'impureté, la toute pure a choisi ce lieu pour venir se révéler à tous les pécheurs que nous sommes. À travers ce sourire lancé à Bernadette, la bienheureuse Vierge Marie nous sourit à chacun. C'est à chacun d'entre nous qu'elle adresse son lumineux sourire. C'est à chacun d'entre nous qu'elle fait ce signe d'avancer, qu'elle fait ce signe de passer à la suite de son fils sur l'autre rive. Bernadette comprend qu'elle ne peut pas voir ce qu'elle voit. Elle n'est pas sotte. De telle sorte qu'elle va s'écraser pendant de longues secondes ses globes oculaires, de telle sorte qu'elle dira que pendant quelques secondes, elle ne voyait plus rien. Elle a bien appuyé, mais la belle dame est toujours là. Alors Bernadette a une idée de bon sens chrétien. Il s'agit pour elle de plonger la main dans son tablier et d'en saisir son chapelet. Ce chapelet vient d'un sanctuaire voisin. Il a été rapporté d'un pèlerinage par sa sœur Toinette. Il vient du sanctuaire de Bétaram et il a coûté 2 sous. C'est un chapelet qui n'a pas une grande valeur, mais pour Bernadette, ce chapelet, c'est non seulement la prière qui réunit la famille tous les soirs, mais c'est aussi ce qu'elle serre dans la main lorsque son asthme vient l'empêcher complètement de respirer. C'est le soutien qu'elle vient serrer dans sa main, de telle sorte que, sachant qu'elle ne peut pas voir ce qu'elle voit, ne sachant pas si cette jolie demoiselle qui lui sourit lui veut du bien ou du mal, elle réfléchit et se dit, rapidement, c'est un instinct chrétien, je vais attraper mon chapelet, à la fois pour me rassurer, mais aussi parce que si je trace le signe de croix avec la croix de mon chapelet, comme Bernadette avait coutume de le faire, ce que va faire la dame, si ça ne vient pas du ciel, cela partira. Or, Bernadette constate, maintenant qu'elle a plongé la main dans son tablier pour y saisir son chapelet, qu'elle ne peut plus bouger sa main. Et elle voit en face d'elle que la dame a parfaitement compris ce qu'elle voulait faire, mais la dame lui a paralysé le bras. C'est la dame qui attrape la croix de son chapelet et trace alors le signe de la croix qui va ouvrir non seulement les 18 apparitions, mais plus concrètement la prière du chapelet qui va unir cette jeune demoiselle et Sainte Bernadette. Une fois que la dame a tracé ce signe de croix que Bernadette gardera toujours en mémoire, alors Bernadette à genoux récite devant la dame la prière du chapelet. La dame ne bouge pas les lèvres, mais par contre avec ses doigts, elle suit l'avancée de la prière de Bernadette. Une fois ce chapelet terminé en présence de la dame lui fait signe de nouveau d'avancer. Maintenant que l'on a prié ensemble, peut-être acceptera-t-elle. Mais Bernadette farouche ne se le sent pas. Alors, eh bien la dame disparaît dans cette lumière qui peu à peu rétrécit et fait place alors au plus grand silence dans la grotte. Mais Bernadette est habitée d'un seul désir, comme j'aimerais la revoir. » Bernadette ne s'est même pas posé la question de qui cela pouvait-il être. Parce que Bernadette vient de vivre une extase. Une extase, c'est lorsque le ciel se manifeste à nous, mais il ne s'adresse pas d'abord à notre intelligence, il ne s'agit pas d'une illumination intellectuelle, il s'adresse d'abord au cœur de Bernadette. Bernadette, au moment de retourner à la grotte, alors Balloune revient avec le fagot de bois, et Bernadette n'a qu'un mot de dire en traversant cette eau qu'elle trouve très douce, « Farceuse que vous êtes !» Vous m'avez dit, 11 février, que l'eau était glacée. Elle a vu les jambes rougies de Toinette et de Balloune qui ont dû sautiller un moment pour faire en sorte que la circulation continue à passer dans leurs jambes, tellement elles ont été saisies par le froid. Ce que devait éviter Bernadette, parce qu'elle l'avait promis à sa mère, en raison de sa mauvaise santé. Farceuse que vous êtes, l'eau est douce. Et Bernadette de poursuivre, n'avez-vous rien vu ? Et Balloune doit répondre, nous on a vu que tu n'as rien ramassé. Et c'est une drôle d'idée de prier comme à l'église, parce que de loin, Toinette a été saisie. Un petit peu embêtée de ne pas avoir aidé son sœur aînée à traverser le canal de sa vie, parce qu'elle connaissait les ordres de la mère, Louise. Mais aussi parce qu'à plusieurs reprises, elle a vu une Bernadette si blanche de loin, que les remords lui faisaient penser que Bernadette était en train de mourir à genoux, à la grotte, dans le froid. De telle sorte que Balloune, qui n'a guère envie d'attendre des heures que Bernadette porte le panier, qu'on remonte, qu'on retourne en ville, leur dit qu'elle les verra un autre jour et elle rentre. De telle sorte que Toinette, qui est habituée à toujours être l'aide de Bernadette, son aide pour marcher, pour porter des choses, est étonnée parce que cette fois-ci, eh bien c'est Bernadette qui va aider Toinette à monter la périlleuse ravine, à finir par lui prendre le panier, de telle sorte que Toinette va lui dire « Mais toi, qu'est-ce que tu as vu ?» Alors Bernadette, sous le sceau du secret, lui racontera avoir vu cette très jeune demoiselle, son grand sourire, avoir prié avec elle « Comme j'aimerais la revoir. » Ave, ave, ave Maria. En cette première apparition, frères et sœurs, la croix a été présente. La croix du chapelet de la Dame, la croix du chapelet de Bernadette à l'unisson, et surtout ce signe de la croix qui a ouvert tout autant les apparitions que la prière. Pour nous aussi, tracer le signe de la croix est une chose grande et sainte. La croix nous marque notre propre corps, parce qu'au jour de notre baptême, nous avons été configurés à notre Seigneur Jésus le Christ. Avec lui, par le baptême, eh bien, nous passons de la mort à la vie éternelle, et que cette Pâque passe par la croix du Seigneur. La Dame était grave, elle a fait lentement ce signe de croix, car on comprend aisément que pour la Sainte Vierge, tracer le signe de la croix, c'est se rappeler être enraciné au calvaire et contempler de quel amour nous sommes aimés, assister au sacrifice de son Fils, le voir rendre son dernier souffle, voir son cœur très saint être transpercé jusqu'à le conduire au tombeau. On comprend aisément que Notre-Dame ne fait pas le signe de croix comme on chasserait des mouches. Non. La Dame plonge au plus près du mystère, et c'est ce que Bernadette, peu à peu, dans les apparitions, eh bien, va percevoir. Alors, je passe un peu rapidement dans les apparitions. Il y a plusieurs moments. Il y a tout d'abord la seconde apparition, le 14 février, qui est importante pour comprendre cette nature extatique des apparitions. Lorsque Bernadette voit la Dame, elle n'entend plus ce qu'il y a autour. Elle est en grande... Alors, conversation, ce n'est pas exact, mais elle est un cœur uni à celui de la bienheureuse Vierge Marie. Ce 14 février, l'apparition est importante. Louise, je passe les détails, a fini par accepter que Bernadette retourne à la grotte avec conditions strictes. Aller d'abord à l'église, prier devant le Saint-Sacrement, puis remplir une bouteille d'eau bénite, afin de la jeter à la grotte si tant est que cette jeune demoiselle fasse de nouveau une apparition, ce que religieusement Bernadette va respecter. Elle part avec les jeunes filles de l'école, elle s'agenouille et là constate qu'elle est la seule à voir cette dame. Pourtant, elle leur dit qu'elle ira là, elle est là. Et puis, pris dans l'extase, Bernadette entre dans cette prière avec la dame et elle ne se rendra plus compte de rien. Elle ne se rend pas compte, par exemple, que deux groupes se sont formés, les plus petites, qui sont conduites par Bernadette. Et Balloune, de loin, de dit « Regarde toutes les fois où on l'attend. Quand il s'agit d'aller à la grotte, vois si elle va bien vite. Je vais te l'assommer, sa dame blanche. » Car pour aller à la grotte, il fallait passer au-dessus de la grotte, pour ensuite descendre une périlleuse ravine. Le chemin est différent du 11 février. Alors Balloune, qui voit Bernadette et les jeunes filles en bas, et qui voit également une pierre, grosse comme un chapeau, eh bien décide de l'envoyer comme possédée du diable, parce qu'on a vu, rapporte quelques témoignages, un étrange personnage. Peu importe, Bernadette ne s'est pas rendue compte, non seulement du cri des jeunes filles en entendant le roulement de la pierre, ne s'est même pas rendu compte que cette pierre a manqué de la tuer de peu. Bernadette n'a même pas eu un instinct de survie ou de protection. Elle est toute en extase avec la dame. Elle ne va pas se rendre compte davantage qu'on va chercher le meunier pour sortir ce petit chat maigre de 1,40 m sous-alimenté que l'on n'arrive pas à déplacer de quelques centimètres. Le meunier dira qu'elle était fort lourde. Elle ne va même pas se rendre compte en cette apparition qu'on va l'amener au moulin de sa vie. Et nous sommes ici, grosso modo, non, on y est, à l'emplacement même du moulin de sa vie. On n'est pas immensément loin de la grotte, mais on est monté à la hauteur de la maison des chapelains et on est revenu par ici. Ce n'est que en sortant de l'extase que Bernadette se rendra compte qu'elle n'est plus à la grotte de Lourdes. Pour elle, elle a toujours vu et contemplé la dame. Ça nous donne le sens surnaturel des apparitions. Car la dame va bientôt lui parler le 18 février en lui disant « N'aie pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire ?» Eh bien, le 18 février, Bernadette, elle est habitée par deux questions conduites par sa voisine, Madame Millet. Qui apparaît? Qu'est-ce qu'elle veut? Et pour cela, on est accompagné de la couturière de Madame Millet, Antoinette Peyret, qui est la fille de l'huissier du tribunal de Lourdes, du greffier, pardon. De telle sorte que Antoinette a emprunté à son père une écritoire, le papier officiel, la plume, l'encre, parce que tout doit avoir pour Madame Millet le constat du greffier du tribunal, le sérieux de la chose. Alors on a prévu, eh bien, à Bernadette de lui apprendre une phrase, « Mademoiselle, auriez-vous la grâce de bien vouloir mettre votre nom par écrit, s'il vous plaît ?» Tout cela en patois, répété à de nombreuses reprises pour la mauvaise mémoire de Bernadette. À la fin du chapelet, Bernadette se lève, c'est la première fois qu'elle se lève en présence de la dame, elle était toujours à genoux. Elle se met à avancer et s'arrête tout d'un coup parce qu'elle se rend compte qu'en avançant, la dame, elle recule peut-être. La petite demoiselle est effrayée. Eh bien non, Bernadette se rend compte qu'elle recule pour descendre à l'intérieur de la grotte. Lorsque vous irez toucher le rocher, vous lèverez surtout la tête et vous rendrez bien vite compte qu'il y a l'ouverture extérieure où nous voyons aujourd'hui la statue de Fabiche dans la grotte, mais qu'il y a tout autant une ouverture intérieure et que les moments les plus importants des apparitions, la dame est descendue auprès de Bernadette pour lui faire face. Alors la dame est descendue. Bernadette peut lui tendre cette écritoire et la dame, avant de parler pour la première fois, entre dans un grand rire qui est repris immédiatement par Bernadette parce qu'elles ont toutes les deux compris le cocasse de la situation. Quand bien même la dame mettrait son nom par écrit, Bernadette est scolarisée depuis même pas un mois à 14 ans. Elle en est encore au béaba. Elle ne serait pas capable de lire. Bernadette se rend compte de la chose, la dame tout autant. « N'est pas nécessaire, lui dit la dame. Ce n'est pas nécessaire. Ce que l'on a traduit pour le contexte, ce que j'ai à dire, il n'est pas utile de le mettre par écrit. Pourquoi ? Parce qu'elle vient d'abord s'adresser au cœur de Bernadette comme à notre cœur à nous, qui sommes chacun enfants de Marie. La dame, après lui avoir dit ce n'était pas nécessaire, va lancer à Bernadette une invitation. Elle va reprendre la syntaxe de la phrase de Bernadette qui disait « Mademoiselle, auriez-vous la grâce ?» Et maintenant, la dame va lui dire « Voulez-vous avoir la grâce ?» Rien que ces quelques mots sont déjà une vraie question qui nous est posée. « Voulez-vous avoir la grâce ?» De venir ici, et vous allez voir que vos abbés ont encore des progrès à faire pour le pèlerinage, pendant 15 jours, on veut vous garder, le Poitou militant et chrétien. Donc il faut venir pour recevoir la grâce de Lourdes et il faut aussi y demeurer. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours? Eh bien Bernadette ne va pas répondre oui. Elle ne va pas répondre non. Elle se sent tellement considérée, elle sent instinctivement que cette invitation dépasse, qu'elle va s'engager en répondant « Je le promets ». Et c'est sur la promesse de Bernadette qu'on n'arrivera pas à faire démentir pendant la quinzaine des apparitions que la dame va lui faire une autre promesse. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Voilà les trois premières paroles de Notre-Dame de Lourdes, dites, nous dit Bernadette, dans une voix douce et fine. Alors, dans les apparitions, il va y avoir un premier instant après ce prologue, eh bien, qui va être d'abord des apparitions, on pourrait dire des mystères joyeux. Bernadette est transfigurée, son visage est éclairé de l'intérieur, elle est incandescente. On voit la grâce, on la compare à Rachel, une actrice de théâtre qui est décédée au mois de décembre et dont les journaux, c'est la première starlette, pourrions-nous dire, ont parlé bien davantage que de la mort du garde des Sceaux. Eh bien, on vient à la grotte pour voir celle qui dépasse Rachel, la grande actrice, par sa grâce. Mais la grâce, ce n'est pas Bernadette qui est plus gracieuse, c'est juste que Bernadette reproduit ce qu'elle voit de la dame. La dame lui fait de belles salutations, Bernadette répond par les mêmes salutations. Bernadette prie, son visage est incandescent et il est illuminé. Peu à peu, dans ses apparitions qui vont finir par être pénitentielles, on va constater par exemple que le visage de Bernadette varie d'intensité de lumière, jusqu'à parfois s'assombrir. Et Bernadette expliquera, ou du moins on comprendra par les petites explications que Bernadette n'aime guère donner, parce qu'on s'adresse à son cœur, pas à son intelligence. C'est un grand effort pour Bernadette que d'essayer de transcrire ou de se souvenir même des paroles de la dame. Eh bien, on comprendra que quand la dame est triste et qu'elle lui parle du péché, le visage de la dame s'assombrit. Et cela se rejaillit sur Bernadette, dont le visage s'assombrit tout autant. Et on entre alors dans la période pénitentielle des apparitions, où la dame va lui dire « Il faut prier Dieu pour les pécheurs ». C'est un ordre donné et lancé. « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs ».« Pénitence !» lui dira-t-elle. Et elle va lui faire poser des actes de pénitence pour obtenir cette conversion du cœur. Et bien plus qu'une terre de miracles, Lourdes est avant tout une terre sainte de conversion. Car vêtue de sa robe blanche et de sa ceinture bleue, la Sainte Vierge reprend le ministère du Baptiste, qui lui était vêtu de sa tunique en poil de chameau et de sa ceinture en cuir autour des reins. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs, c'était bien ce que disait Jean-Baptiste. Il faut se convertir, il faut que je diminue pour que lui en moi grandisse. C'est tout ce qui intérieurement va se passer en Bernadette, qui est l'archétype du pèlerin. C'est le modèle que nous suivons. À la grotte, nous mettons nos pas dans les sabots de Bernadette. Nous la suivons. C'est elle qui a posé les premiers gestes. On touche le rocher, on embrasse la terre par amour pour les pécheurs. La dame va même lui faire manger les herbes amères de l'ancienne Pâque. Alors elle mange l'ancienne, ces herbes amères. L'abbé Penn, le jeune vicaire, lui posera des questions et au plus près des apparitions, Bernadette ne répondra pas, comme on pourrait l'imaginer, bien qu'elle ne l'était pas de façon effrontée à l'évêque, on mange bien de la salade. Au plus près des apparitions, elle répond par trois mots très simples qui marque l'abbé Peine pour les pécheurs. Bernadette entre dans une prière de réparation. Elle veut faire plaisir à la dame, elle veut à nouveau faire sourire la dame, elle voit que le péché l'attriste, alors, eh bien, il faut poser ses actes par amour pour les pécheurs. Voilà ce chemin pénitentiel au milieu duquel, 25 février, c'est l'apparition centrale, la dame va faire jaillir la source de Massabielle. Aller à la source, c'est l'image du cœur du Christ, qui est le cœur transpercé d'où jaillit, et du sang et de l'eau. Aller à la source pour boire et pour vous laver. Boire, parce que cette source, nous sommes à Massabielle. Et lorsque Moïse était à Massa et Meriba, le peuple avait soif et récriminé contre Dieu de l'avoir fait quitter l'Égypte, les bords du Nil, où là au moins on avait de l'eau. Et Dieu répond à Moïse avec son bâton, à Massa et Meriba, de frapper le rocher, alors il en jaillit de l'eau. C'est déjà l'image du Christ qui seul peut désaltérer nos âmes et nous conduire aux sources vives du salut. Eh bien, à Massabielle, la dame aussi fait jaillir l'eau de la source au milieu des eaux innombrables du Gave. Le Gave détourné par le canal de Savy qui alimente le même moulin où nous sommes sur le lieu. Et puis ce lieu où il y a le Gave, et on a reculé le Gave depuis les apparitions de 15 mètres. Le Gave frôle l'entrée de la grotte. Lorsque Bernadette entend qu'il faut boire et se laver, Bernadette épose un acte de foi, peut-être le même que les serviteurs de Cana. Car le Christ, on vient de remplir les cuves d'eau, ils partent avec de l'eau, posent l'acte de foi de servir de l'eau et de constater qu'il s'agit du vin. Eh bien, Bernadette, elle voit une eau par trop boueuse, elle ne comprend pas qu'il s'agit d'une source, ni même d'une fontaine, c'est le même mot en patois. Elle finit par boire de cette eau boueuse. Et elle, puisqu'il faut s'en laver, elle s'en macule le visage, et ceux qui ont vu le visage rougi de Bernadette se rappellent à quel point, pardon, il était en lui-même, rougi par la glaise, un appel pressant à la conversion. Boire, seul le Christ étanche notre soif. Et la dame va demander une chapelle pour que l'évangile résonne, pour que l'évangile soit expliqué, actualisé, pour nous qui, pauvres pécheurs, devons nous convertir, revenir vers le Seigneur en allant à la source, en allant à l'évangile, en écoutant le Verbe de Dieu, le Christ lui-même. Et il faut aller à cette source pour se laver. C'est ce que contemple Saint Jean dans la vision de l'Apocalypse. Mais d'où viennent-ils, tous ceux qui entourent l'agneau? Ils viennent de la grande épreuve. Et ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est l'image des martyrs qui ont suivi le sacrifice de l'agneau de Dieu au plus près. Alors il faut aller à la source, pèlerin, pour boire et nous laver. Après ces apparitions plus pénitentielles, voilà que le carême a fait son chemin, parce qu'on est entré dans le temps du carême le 19 février, c'est-à-dire le lendemain, le 18 février, pardon, nous sommes pendant le temps du carême, c'est le mercredi juste avant, le 17, où l'Église est entrée dans ce temps de pénitence et de conversion. Alors le statut va changer, parce qu'on va rentrer dans le temps de Pâques, c'est le miracle du cierge, où Bernadette va porter un grand cierge pendant le mercredi de l'octave de Pâques. C'est le Christ ressuscité qui est présent au cœur des apparitions. Quelque temps après, le 3 juin, Bernadette va faire sa première communion, c'est-à-dire recevoir pour la première fois en son âme le Christ lui-même qui se donne à elle sans retard et sans retour, et tout cela par amour, comme nous le recevons nous aussi dans la Sainte Communion, sans retard, sans retour et par amour. Nous ne devons pas manquer le temps d'action de grâce, de la communion. Parfois on dit, monsieur l'abbé, vous êtes plus près de Dieu, est-ce que vous pourriez lui confier qu'on ne peut pas être plus près du bon Dieu qu'au moment où on vient de le recevoir? Ne ratez pas ce moment-là, ne dites pas avec saint Augustin, je vous cherchais à l'extérieur, alors qu'en fait, vous étiez à l'intérieur. Et Bernadette est tellement heureuse d'être tout au Christ en le recevant dans la communion. La dame a répondu enfin à la question de Bernadette, mais qui est-elle? Que soyera Immaculada Concepcio, je suis l'Immaculée Conception. Eh bien, la formule qui nous est pour nous familière a heurté. Heurté parce que la Vierge se dise immaculée, c'est quand même très bizarre. Alors nous, cette appellation a fait du chemin à nos oreilles, surtout à l'école de Maximilien Kolb, qui va nous parler du chevalier de l'Immaculée dans ses différents périodiques qu'il fait publier à travers le monde chrétien. Il va bâtir la cité de l'Immaculée, de telle sorte que pour nous, l'Immaculée finit par désigner Notre-Dame. Mais c'était quand même une drôle de façon que de se présenter. Immaculée signifie ne pas avoir macula, la tache du péché originel. 3 ans et 3 mois avant les apparitions de Lourdes, eh bien, le dogme de la conception immaculée de la Vierge Marie a été officiellement déclaré dans l'Église, de la conception immaculée de la Vierge Marie. La conception de la Sainte Vierge est immaculée, elle a été préservée du péché dans le ventre de Sainte Anne, sanctuaire de la vie et de la vie divine, comme vous toutes qui êtes mères, eh bien, en donnant vie à votre enfant, vous lui avez donné non seulement la vie du corps, mais Dieu, au premier instant de sa conception, dans votre sein, pour parler comme les Écritures, eh bien, a aussi accordé l'âme éternelle à vos enfants. Sanctuaire de la vie et de la vie divine, êtes-vous, mesdames? Eh bien, lorsque Bernadette va entendre la dame, elle ne va rien comprendre de l'appellation. On lui expliquera que c'est ce qu'on lui dit depuis le début. C'est donc la Sainte Vierge. La Sainte Vierge se présente comme l'Immaculée, celle en qui il n'y a pas la tache du péché originel. Mais elle ne vient pas nous narguer. Moi, je suis sans péché, tant pis pour vous. Non, elle vient tracer tout un chemin de pénitence pour obtenir la conversion, pour faire en sorte que cette tache du péché n'entache pas notre salut. Et pour cela, nous passons par la croix du Seigneur. Alors, ce message insiste surtout sur le mot conception. Je suis la conception. Je suis la conception au sens où, en étant immaculée, je suis la conception parfaite que Dieu avait de l'homme et de la femme au commencement. Je suis donc la nouvelle Ève. Mais surtout, en tant que mère, dans l'ordre de la chair de notre Seigneur Jésus le Christ, elle a mis le Christ dans son humanité au monde. Pour le dire autrement, il ressemble à sa mère. Mais, dans l'ordre de la grâce, et la Vierge est présente au pied de la croix, elle a entendu le nouvel Adam lui dire « Femme, voici ton fils ». Ce n'est pas une expression du patriarcat, comme on dirait aujourd'hui. Voyez comment il parle à sa mère, « Femme ». Non, c'est le nouvel Adam sur le bois de la croix qui s'adresse à la nouvelle Ève. « Femme, voici ton fils ». Et ce disciple bien-aimé, eh bien, il nous figure chacun. Et à partir de cette heure, nous avons pris Marie chez nous, et Marie surtout nous a pris comme sous son manteau. Elle est devenue notre mère, la nouvelle Ève, dans l'ordre de la grâce. De telle sorte qu'elle nous dit à Lourdes, « Je suis la conception, mes enfants. Je dois vous concevoir et vous enfanter, non pas dans l'ordre de la chair, mais dans l'ordre de la grâce. » Et donc la Vierge veut nous concevoir et nous enfanter en nous faisant emprunter ce même chemin qui habitait les disciples du Baptiste, en nous faisant passer, eh bien, de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, aller à la source, boire et vous laver, en nous permettant de nous unir au Christ, tout a commencé par le signe de la croix, cette croix de qui nous avons reçu la vie divine. Ave, ave, ave. Après ce petit tour d'horizon des apparitions dans lequel chacun ira puiser le miel nécessaire à son pèlerinage, je voudrais vous entretenir, après vous avoir entretenu de cette grande sainte Bernadette de notre Bigorre, d'un clin d'œil du ciel qu'elle a comme orchestré en 2025, l'an dernier donc, année jubilaire, en présentant à notre diocèse comme notre grand frère, le bienheureux Pascal Vergès. Vous savez peut-être, mes amis, qu'il y a eu une béatification, malheureusement un peu escamotée par nos évêques qui ont fait ça en plein mois de décembre, à Notre-Dame de Paris, où 50 martyrs de l'apostolat ont été déclarés bienheureux par l'Église. Qui sont-ils? Ce sont avant tout, pour la plus grande partie d'entre eux, des jeunes hommes. Des jeunes hommes profondément chrétiens. Nous sommes ici dans la salle qui s'appelle du cardinal Gérier. C'est l'époque du cardinal Gérier. C'est l'époque du pontificat du pape Pie XI, qui a cette intuition de ce qu'on a appelé, avant que ça ne soit dévoyé dans l'intention, l'action catholique. Avec le fait que dans les campagnes chrétiennes, on se dirige de plus en plus vers la ville, où on se déracine donc de cette vie chrétienne pour s'établir dans des villes, il s'agit de refaire chrétiens nos frères. Et pour cela, le pape Pie XI va donner cette intuition de l'action catholique. Certains ont peut-être été formés par l'action catholique, mais moi j'ai pu constater dans mon ministère, j'étais jeune, j'étais pas prêtre même encore, j'ai encore rencontré des gens façonné par l'action catholique, non dévoyé. C'est-à-dire par des gens qui ne choisissaient pas entre être Marthe ou être Marie. Des gens qui étaient autant à genoux à la messe, que présents devant le Saint-Sacrement, que priant leur chapelet, que présents dans toutes les associations de la ville, que ce soit la Croix-Rouge, le Secours catholique, et qui étaient autant Marthe que Marie. Qui aimaient autant se rassasier des paroles de la vie éternelle que d'être au service du prochain en opérant des œuvres de miséricorde. C'est ça, l'action catholique. Ne pas choisir entre seulement la contemplation à l'Église et se détourner du prochain, ou ne pas se tourner vers le prochain jusqu'à opérer un humanisme déraciné sans Dieu. Rajoutez par-dessus cela le communisme, vous voyez comment ça a pu ensuite, seulement, sortir de cette fondation solide. Ces jeunes dont je vous parle là ont été extrêmement bien formés. Formés intellectuellement, du sens profond de la foi, avec ce vif désir de recevoir le Seigneur dans la Sainte Communion, avec ce vif désir de demeurer et de cultiver cet état de grâce pour lequel il faut se confesser, avec ce désir passionné d'approfondir la connaissance de l'Évangile parce qu'on y rencontre le Seigneur Jésus. Nous sommes en Bigorre en 1910, dans un petit village non loin d'ici qui s'appelle Aucun, et va naître au jour de Pâques celui qu'on va appeler Pascal. Pascal Vergès. Il vit dans une famille profondément chrétienne. Son père est d'abord dans la garde nationale, puis deviendra gendarme. Sa mère est mère au foyer. Un foyer chrétien, 1910, cinq ans après la séparation de l'Église et de l'État, c'est tout ce contexte aussi qui ne permettait pas à des chrétiens d'être tièdes, comme aujourd'hui, attiédis par l'esprit du monde. Vu l'opposition que l'on avait manifestée à l'endroit de l'Église, vu le fait qu'on a pris de force les églises pour en dresser les inventaires, vu le fait que la propriété des églises qui appartenaient à l'Église soit transférée à l'État et aux communes, vu le fait qu'on ait expulsé les religieux de toutes les écoles de France, vous imaginez qu'on ne peut pas grandir dans un tel climat et être un chrétien tiède. On appartient au Christ. Le petit Pascal est élevé dans ce contexte de grande blessure, d'une nouvelle séparation entre l'Église et l'État. Il va grandir sous la Première Guerre mondiale et se souvenir avec émotion comment le village se retrouve chaque jour à l'Église pour porter dans la prière du sacrifice du Christ par lequel nous avons reçu la vie, tous ces hommes qui sont partis au combat et supplier le bon Dieu, supplier Notre-Dame, qu'ils reviennent dans leur famille. Vous comprenez que quand on est élevé avec des messes qui ont ainsi le vrai sens du sacrifice et tout autant habité par l'amour de Dieu que par l'amour du prochain, on grandit quand même en sainteté. Le brave curé de l'abbé Vergès n'avait qu'une idée, c'était de dire « Mes enfants, nous irons à Lourdes ». dès qu'il y aura la cessation des hostilités. 8 décembre 1918, tout le pèlerinage de la famille du village d'Aucun vient en pèlerinage à Lourdes. Le petit Pascal, qui aimait tant les choses de Dieu, que l'on voyait souvent dans la chapelle de la Vierge, est là, comme un poisson dans l'eau, si vous me permettez l'expression, tout heureux. Il n'a qu'un désir, revenir à la grotte de Lourdes. Il ne se doute pas qu'il y sera ordonné quelques années plus tard, au plus près de la grotte, à l'intérieur de la basilique du Rosaire. Il décide donc de devenir prêtre. C'est le désir qui habite son cœur. Et sa famille déménage d'Aucun à Lucin-Sauveur, ma paroisse. Et là, dans cette église fortifiée, il reçoit le sacrement de la confirmation. Déjà le baptême de Pascal, le jour même de Pâques. Ensuite, cette confirmation reçue va lui donner la force nécessaire et du discernement et la force de répondre à l'appel du Christ qu'il entend ce jour-là. « Oui, je serai prêtre. » Et il entre l'année suivante, il a 12 ans, au petit séminaire de Saint-Pé, non loin d'ici, et tous les petits séminaristes de Saint-Pé viennent servir les grandes messes ou viennent encore chanter. Habité par ce message de Lourdes, façonné par cette grâce bigourdane et par la figure de Sainte Bernadette, dont on va retrouver chez lui la même pauvreté de cœur et la même simplicité. L'abbé Vergès entre donc au séminaire et finit par être ordonné prêtre en 1935 à la basilique du Rosaire. Il dira le lendemain de sa première messe dans mon église de Lucin-Sauveur, « Prêtre, je suis !» Changement ontologique. « Prêtre, je suis !» « Je le serai jusqu'à la mort. » Drôle de phrase qui va révéler tout son sens à travers le martyr. Déjà, ce baptême l'a configuré au Christ, comme chacun d'entre nous sommes configurés au Christ. Nous lui appartenons. En devenant enfants de Dieu, nous sommes héritiers de la vie éternelle. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, dirait Notre-Dame de Lourdes, mais de l'autre. » Eh bien, pour le désir de l'autre monde, l'abbé Pascal s'est fait prêtre pour donner Jésus-Christ au monde, notamment dans les sacrements ou encore la prédication de l'Évangile. C'était sans compter que l'on entrait dans un second conflit mondial. Il avait fait son service militaire à Brive-la-Gaillarde parmi les chasseurs pyrénéens de Tarbes. Alors que son commando est appelé sous les drapeaux, il va être rapidement fait prisonnier. Et là, il va passer trois ans à attendre, sans savoir ni le jour ni l'heure, celui de la libération. Il est protégé par la Convention de Genève et peut être aumônier. Il peut célébrer la messe et peut, pour ses autres compagnons, eh bien, être le prêtre, l'oreille attentive, l'oreille qui accorde le pardon de Dieu, etc. Mais voilà que l'Allemagne, toute puissante, commence à avoir du plomb dans l'aile et demande à plusieurs gouvernements, dont le gouvernement de Vichy, de proposer à des Français de venir travailler en Allemagne. Bon, quelques-uns répondent malgré tout. C'est aberrant, mais c'est ainsi. Et comme les foules ne sont pas aussi nombreuses, voilà qu'on va rendre ce travail en Allemagne obligatoire. Service du travail obligatoire. On va déraciner des milliers de jeunes Français d'à peu près les mêmes années, 18, 19, 20 ans, pour les envoyer en Allemagne. Et en Allemagne, vous comprenez pour qui on travaille. Et vous comprenez, comme l'abbé Vergès, que quand on va travailler dans la baraque des chimistes, vous imaginez la responsabilité de ce travail. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer dans ces baraques ? Le régime s'est profondément durci, le régime nazi. Nous ne voulons pas du crucifix. Il est strictement interdit à l'Église d'Allemagne de porter un quelconque secours spirituel à ces milliers de jeunes déracinés de chez eux. C'est là que le cardinal de Paris, cardinal Suard, avec Monseigneur Audin, qui au lendemain de cette guerre va fédérer et constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le secours catholique, avec cette cité Saint-Pierre au-dessus de nous, des sanctuaires de Lourdes, eh bien c'est là que le cardinal Suard va se dire il faut qu'il y ait une aumônerie clandestine, parce que ces jeunes formés à l'action catholique ont une grande faim de Dieu, une grande soif de Dieu. Et au bout d'un moment, ils disent, oui, nous tenons dans la vie chrétienne, mais nous devons avoir des prêtres, parce qu'on ne peut pas être chrétien sans prêtre, parce qu'on a besoin de la confession, parce qu'on veut recevoir le bon Dieu, et parce qu'on veut avoir des prêtres comme pasteurs au milieu de notre peuple. Et parce qu'il manque toujours du monde dans les usines, et qu'on n'arrive plus à garder tous les prisonniers, on propose aux prisonniers d'être transformés, c'est-à-dire de changer de statut de prisonnier à celui de travailleur libre en Allemagne. Quand on propose ça à l'abbé Verger, s'il répond, on a passé 3 ans à attendre, on n'en est pas à quelques mois près. Hors de question, par amour de Dieu, amour du prochain, amour de la patrie, d'aller travailler pour l'ennemi. C'est noble d'être prisonnier pour la patrie. C'est autre chose que d'aller travailler pour l'occupant. Et l'abbé Vergès écrit à l'abbé Rodin, qui est alors l'aumônier des prisons, des prisonniers, en lui disant « On me garantit la Convention de Genève si je vais être aumônier de 10 000 jeunes, 10 000, avec quelques séminaristes, avec des religieux qui ont envie, qui ont besoin des prêtres. Alors, non, par amour de l'Allemagne, mais par amour de Dieu, et pour répondre à cette vocation sacerdotale, l'abbé Vergès accepte d'être prêtre transformé et d'aller en Allemagne pour être prêtre au milieu de ce troupeau. Et l'abbé Vergès se sentira bien plus surveillé à chaque instant en travail libre en Allemagne que dans sa prison, parce qu'il est identifié comme prêtre. Et il pourra dire, dans ces camps de travaux obligatoires, si la maison close est plus qu'encouragée, on interdit à ce qu'il y ait la chapelle. Il réussit à pouvoir célébrer la messe le soir tard, parce que cette église d'Allemagne donne quand même quelques possibilités pour faire parvenir les hosties, pour faire parvenir le vin. On écrit à l'abbé Rodin, envoyez-nous des livres, pas des livres trop difficiles, des livres de piété, c'est ce dont nous avons besoin, on a besoin d'évangile. L'abbé Vergès va être une oreille qui va passer son temps à confesser. Dans la baraque des chimistes, ça n'arrête pas de passer, si bien c'est la seule fois qu'il va s'opposer grandement aux nazis. C'est justement quand on commence à lui dire que ça commence à faire beaucoup trop de monde qui viennent toujours le voir. Et là, il s'agace en disant, c'est pour eux que je suis ici. Pas pour travailler comme chimiste. Je suis là pour être ambassadeur de la miséricorde de Dieu, pour leur donner le bon Dieu dans les sacrements. L'abbé Vergès s'est fait repérer parce qu'il est parti bénir les tombes des fusillés ou de tous ceux qui sont morts. Et ce prêtre de Mésinbourg à côté va lui dire, mais faites attention, vous êtes surveillé. L'abbé Vergès dit bien, je le sais, je le sens, que je me sens surveillé. Et de dire, mais qu'est-ce que nous devrions faire d'autre? Et le confrère prêtre, écoutez ça, mes chers frères, voilà le sens naturel. Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Rien. S'il faut mourir, mourons par fidélité. Par fidélité à la vie donnée dans le sacrement de l'ordre. L'abbé Vergès est arrêté en train de dire la messe. Alors pendant sa captivité, il aura baptisé 2 catéchumènes dont il écrira à sa maman que ça a occupé un grand nombre de ses soirées. Tous les dimanches, chaque jour, il passe des heures et des heures à confesser, à célébrer la messe comme on peut, à Noël, en faisant répéter secrètement la messe des anges, le reste, jusqu'à trouver des clairières où on peut enfin célébrer la messe. Arrêté, rasé, plus un seul cheveu. Et pendant 3 mois, voilà que commence la passion de l'abbé Vergès. Il a été baptisé, je vous l'ai dit, au jour de Pâques. Et avant d'être configuré au Christ dans sa résurrection, il va être configuré, comme chacun d'entre nous à des degrés divers, à la passion du Seigneur. Comme lui, il est prisonnier. Comme lui, il est humilié. On le verra plusieurs fois parader avec un encart, espion du Vatican. On va bien sûr le flageller à de nombreuses reprises. Jusqu'à, eh bien, à ce qu'on ne lui donne quasiment plus, à lui et à quelque autre prisonnier. Là, il est rentré dans un camp d'internement. C'est la solution finale. Il n'y a pas de four crématoire, mais à petit feu, ils vont mourir. En 3 mois, l'abbé Vergès, qui a une stature d'athlète, va mourir. Dans une lettre, il écrira, et ce n'est pas un sens de l'humour, nous le pensons, qu'il ne lui reste qu'une dent, qui finisse par se déchausser. L'abbé Vergès a été, pour tous ceux qui l'ont rencontré et connu, il n'était pas bavard comme Sainte Bernadette, il était bien décidé et résistant en son âme, eh bien il s'est efforcé de ne jamais faire désespérer dans ces lieux, écrit-il, où tout est fait pour que l'on désespère. On est déraciné, loin de sa famille, loin de sa patrie. On ne sait pas quand tout cela va s'arrêter. On nous propose la débauche au lieu de la piété. Il n'y a plus de vérité, il n'y a que du mensonge partout, mais le prêtre est là pour ne pas faire en sorte eh bien, que ces jeunes se perdent complètement et soient, comme dit le Seigneur, des brebis sans berger. Eh bien, cet abbé Vergès, pour vous donner un exemple, dans les derniers jours, alors qu'on se relaie, que le soir on s'efforce d'aller le voir, d'aller prier avec lui, eh bien on entend le temple voisin protestant qui sonne 10 heures. Et l'abbé Vergès, on sent que là il est désespéré, qu'il n'est pas loin de rendre son dernier souffle. Et on lui dit, l'abbé, il est 10 heures. À Lourdes aussi, on sonne la grand-messe. Alors là, nous rapportent les deux, trois témoins, son visage s'est illuminé et ils ont attesté pour nous. C'était le Christ. Et le dernier geste de l'abbé Vergès, admirable s'il en est, il ne cesse plus de tousser, des quintes de toux interminables en raison de ce typhus qu'il a contracté. Il suffoque un peu comme nous de la chaleur maintenant. Il est dans cette baraque d'infirmerie, on a tout fait pour qu'il n'y aille pas, parce que dans cette baraque, il n'y a même pas de toilette. D'ailleurs, en parlant de toilette, dans les cellules où il est, il y a une toilette. Et vous comprenez que dormir à côté du toilette, ce n'est pas la meilleure place. Donc on s'efforce de changer de place tous les soirs. Or, on constate, le chef de chambrée, que l'abbé Vergès, c'est toujours la place qu'il choisit. Et on lui dit, mais enfin, pourquoi vous choisissez toujours cette place? Et il répondra, excusez la vulgarité des choses, il y en a toujours un qui pisse à côté. C'est la plus mauvaise place. Même dans ces camps, l'abbé Vergès habitait du message de Lourdes est habité par la pénitence et par la conversion pour les pécheurs, aurait dit Bernadette. Il est donc cette fois sur son lit d'infirmerie, un truc infâme. À côté de lui, un Allemand, un jeune Allemand, qu'il a rencontré dans ses différents procès, tel le Seigneur dans sa passion, qu'on amène d'endroit à endroit pour répondre à des interrogatoires. Un jeune Allemand qui s'était fait prendre parce que il était en opposition au régime nazi. On l'a pris et on l'a mis dans les wagons. Mais, après avoir chargé du bois, on s'est amusé à lui fermer la porte sur la jambe. Blessure vive ouverte à côté de l'abbé Vergès, ce jeune Allemand, Steiner, hurle tout ce qu'il peut de douleur. Que lui, l'abbé Vergès, n'a même pas le souffle pour hurler. Il rassemble toutes ses forces et réussit à se lever pour aller porter, acte de miséricorde, les derniers soins, tout ce qu'il peut faire avec un peu d'eau et le peu de bandage qu'il trouve dans une infirmerie où il n'y a pas d'infirmier, pour essayer de soulager ses souffrances. Et c'est en revenant vers son lit, tombant à genoux, nous disent les témoins, dans un acte d'adoration, que là, il rendit son dernier souffle. Voilà l'abbé Pascal Vergès, fidèle jusqu'au bout. Prêtre, je suis, prêtre, je le serai jusqu'à la mort. Pétri de cette spiritualité bigourdane et mariale, et c'est Sainte Bernadette qui nous l'a comme envoyée, parce qu'en cérémonie diocésaine, c'est bientôt fini mes amis, il s'agissait d'entrer, comme toute l'Église, dans l'année jubilaire, et je m'étais dit, puisqu'il s'agit de vénérer les apôtres de qui nous avons reçu la foi à Rome, eh bien on va d'abord commencer en ouvrant cette cérémonie pour le diocèse, en vénérant les reliques de nos saints fondateurs. Mais on était loin de penser qu'au moment de la conclusion de cette année sainte, pour le 100e anniversaire de la béatification de Sainte Bernadette, 1925, eh bien, elle nous enverrait comme un clin d'œil pour nous désigner ce grand frère que, dans le diocèse, nous avions complètement oublié. Je me revois dans le bureau de l'évêque me disant « L'abbé, nous avons un bienheureux en décembre. Il a vu mon regard, peut-être comparable à celui de Peyramal, il a vu mon sourcil, il m'a dit « Je viens juste de l'apprendre comme toi » parce que ce n'était pas possible que je ne connaisse pas. » Eh bien voilà, que sorti de l'oubli, telle Bernadette qui aurait aimé rester dans l'oubli, rester cachée, le sacrifice et la fidélité de l'abbé Vergès, comme des 49 offres martyrs, certains décapités, d'une grande fidélité, d'un grand amour de Dieu, eh bien, ils ont donné leur vie pour que nous ayons la vie en abondance. Eh bien, que ce message de Lourdes, qui est aussi porté par la fidélité de l'abbé Vergès, nous aide à comprendre, chers pèlerins, le sérieux de la foi chrétienne. Car ce n'est pas le bonheur de ce monde qui nous est promis, mais c'est le bonheur de l'autre monde. Et la dame a tracé le signe de la croix, cette passion qui a traversé l'abbé Vergès, cette passion qui nous attend chacun pour aussi obtenir la vie éternelle. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.